Bonjour.
Le Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Et nous continuons donc l'étude que nous avons démarrée la semaine dernière, le mardi. Je vous rappelle que le dimanche, nous voyons un sujet et le mardi soir, un autre. Voilà. La semaine dernière, on a commencé donc à regarder l'histoire de Élisée et cette femme, cette tsunamite, plus ou moins exactement ce couple. Nous avons vu la dernière fois le premier verset de ce texte qui nous a parlé de l'hospitalité. Vous vous souvenez ? Et nous nous étions lancé un défi, inviter des amis. Qui est-ce qui l'a fait? Ah, il y en a quand même. Et alors? Ça s'est bien passé? Ils sont pas venus? Ils vous avaient invité, ils sont pas venus? Bon, c'est des risques, hein. Mais c'est déjà au moins un essai, hein. Il y en a d'autres qui ont invité? Vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas eu l'occasion? C'est dommage. Je vais renouveler l'invitation, alors. Il faut pouvoir inviter nos voisins, nos amis. Hein, je vais pas refaire la prédication de la dernière fois, mais il y en a un, vous le connaissez, hein, je sais pas, je vous l'avais dit, hein, il avait commencé à prêcher une fois un dimanche, et puis le dimanche d'après, il reprêche le même message. Vous le connaissez? Bon, il faut pas que je fasse pareil, quand même. Et je crois que c'est vrai, c'est important que nous puissions regardez un petit peu ce que la Bible nous enseigne, parce que je me dis, ce qu'on va voir ce soir, la chambre haute d'Élisée, et si nous ne la mettons pas en pratique, hein, comme l'hospitalité, c'est dommage, alors, de passer à côté de bien des choses que Dieu voudrait nous donner. On va lire ensemble ce texte. Deux Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alors faisons-lui une petite chambre haute. » Bien d'autres choses vont être faites également pour cet homme de Dieu et celui qui va l'accompagner. Mais on aura l'occasion de voir cela mardi soir après mardi soir. Faisons-lui une petite chambre haute. Je me suis posé la question, pourquoi haute? C'est la suite. Ça vous pose pas la question, vous? Ils auraient pu tout simplement lui faire une chambre, hein? Mais pourquoi haute?
Je t'ai pas donné le papier. Le papier pour suivre, je ne l'ai pas donné. Il est sur mon bureau, alors. Sur mon bureau, si tu veux chercher.
Oui, peut-être que je me pose des questions bizarres, hein, mais c'est un peu important, des fois, de se poser certaines questions pour savoir ce que le Seigneur peut-être veut nous enseigner. Je me suis dit peut-être que c'était le contexte architectural de l'époque. Vous savez, qui faisait qu'à l'époque, les maisons étaient souvent en étage avec un toit plat. Et c'était facile de faire un toit plat. Pourquoi? Parce que justement, dès que les enfants arrivaient, que ça grandissait, ben hop, on remettait quelques murs, et on faisait une pièce supplémentaire. Et puis il montait comme ça, pas trop, parce que souvent les fondations n'étaient pas immenses. Mais c'est vrai que quand on avait besoin d'une pièce supplémentaire, eh bien, c'était assez pratique, assez facile. J'ai réfléchi à cela et je me suis dit que tout croyant devait avoir une chambre haute. Tous les chrétiens d'Andrézieux devraient avoir une chambre haute. Bon, commencez pas à vous lancer dans des travaux et à penser de quelle manière vous allez pouvoir démolir l'appartement qui est le vôtre. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ça me fait penser à quoi? Eh oui, aux disciples, à la Pentecôte. À ce moment particulier, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le verset 13 de Actes au chapitre 1er, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette chambre haute, c'est l'image tout simplement de notre relation avec Dieu. C'est l'image de l'intimité que chacun d'entre nous, nous devons avoir ou nous devrions avoir, que vous avez avec le Seigneur. C'est cette image forte d'un moment intense, d'un moment fort. Je crois que Élisée, ce prophète, avait besoin d'une chambre haute. Oh, certainement, d'un point de vue matériel, c'était vrai. Ils avaient besoin, ils passaient, ils faisaient un long voyage, et c'était bien pour eux de couper le voyage. Nous avons vu donc la semaine dernière l'hospitalité, et c'est bien que ces gens les reçus, les accueillis, les logés, les fait manger, etc. C'est une très bonne chose. C'était nécessaire. Mais certainement que cet homme avait aussi besoin d'une autre chambre haute. Cette chambre haute spirituelle. Cet homme de Dieu avait besoin d'être en relation avec Dieu. Il avait besoin d'être en contact avec Dieu. Il avait besoin d'entretenir cette communication avec le Seigneur. Alors qu'il agissait, alors qu'il marchait, Dieu se révélait à lui, parlait à son cœur. Alors lui, il pouvait ensuite parler au roi, il pouvait parler au chef de l'armée, il pouvait conduire le peuple dans les bénédictions et les délivrances que Dieu voulait leur accorder. Imaginez que ce prophète ne se tienne pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire au roi lorsque les ennemis les attaquaient? De quelle manière aurait-il pu faire en sorte que le peuple échappe à telle ou telle embuscade? S'il avait dit ce qu'il pensait, s'il avait dit ce qu'il avait envie de dire, et s'il avait simplement dit les convictions qu'il avait dans son cœur et non pas la parole de Dieu, j'imagine que d'Israël, il ne devrait pas en rester grand-chose. Parce que certainement que humainement, il aurait pris des orientations qui n'auraient pas été véritablement les bonnes. Il savait que sa vie ne pourrait pas ressembler à ce que nous lisons dans le livre des rois si il n'avait pas cette intimité avec Dieu. Il avait un besoin urgent de prière. Il avait un besoin indispensable, journalier, non seulement de parler à Dieu à travers la prière, mais aussi de laisser Dieu lui parler. Parce que la prière, c'est ça. Certains pensent que la prière ne va que dans un seul sens. Ils sont là et ils doivent s'adresser à Dieu. Ça, c'est que la moitié de la prière. L'autre moitié de la prière, c'est ensuite laisser Dieu te parler. Laissez Dieu parler à ton cœur, laissez Dieu t'instruire, laissez Dieu t'enseigner, laissez Dieu te montrer ce que tu dois vivre et ce que tu dois faire. Il avait besoin de laisser Dieu lui communiquer les révélations divines. Vous savez, je pense que nous n'avons pas besoin d'être appelés prophètes pour avoir cette relation. Dès le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ et qu'il a changé notre cœur et notre vie, il nous a engagés à avoir une chambre haute. Il nous a amenés à avoir cette relation avec lui. Nous avons aujourd'hui les mêmes besoins qu'Élisée avait à son époque. Nous avons besoin d'une véritable relation avec Jésus-Christ. Et pas une relation de religiosité. pas une relation intellectuelle, pas une relation philosophique ou doctrinale, non, une relation de cœur à cœur, une relation véritable, une relation, je pourrais dire, de homme à homme, ou de femme à homme, une relation de frère et sœur, une relation de père, comme nous l'avons vu dimanche, une relation profonde, une relation intime, une relation vraie. Nous devrions tous avoir une chambre haute. Ma chambre haute, à moi, c'est parfois mon bureau, ma voiture, c'est l'avion quand je suis en déplacement, généralement les cabines de toilette, c'est là où on est le plus tranquille. Un moment tranquille, où personne vient nous déranger. Un instant où on peut réfléchir un petit peu, commencer à louer le Seigneur, l'adorer, le célébrer, commencer à lui parler, le laisser pénétrer notre cœur. C'est un moment tranquille dans notre chambre à la maison, c'est un coin reculé dans le salon, c'est un instant où il n'y a plus les enfants, on n'est plus préoccupé par notre travail, par le mari, par l'épouse, par nos soucis, par le repas, par tout ce que l'on veut. C'est un instant où on est seul à seul avec Dieu. Chaque jour, nous devrions avoir un instant seul à seul avec Dieu. C'est même pas un moment où tu vas lire ta Bible. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est un moment où tu rentres tout simplement en contact avec lui. C'est comme si tu avais invité ton meilleur ami, tu l'invites à la maison, il s'assoit dans le canapé, et toi tu t'assois en face de lui, et tu commences à discuter. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça boum pour toi? Ça va bien dans le monde? C'est formidable de se réveiller le matin et de savoir que la gloire de Dieu remplit l'univers. Mais c'est encore plus formidable de savoir que la gloire de Dieu peut remplir ma vie et veut remplir le lieu là où je suis. Et là, tu commences à taper la discute. Tu commences à dialoguer. Oui, comme si tu rentrais dans une discussion réelle entre Dieu et toi. C'est pas comme si. C'est une véritable discussion. Parce que quand tu commences à parler à Dieu, Dieu te parle aussi. Et Dieu s'adresse à toi. Et il commence à te montrer des choses. Il commence à te dire. Et si certains disent, mais Dieu m'a jamais parlé, mais est-ce que tu as déjà posé des questions? Est-ce que tu es déjà vraiment rentré en communication avec lui, en communion avec lui? Est-ce que tu es vraiment déjà rentré en contact, comme un véritable dialogue avec ton frère, avec un ami, avec un père? Entre en dialogue de cette manière-là. Et comme tu vas être étonné que Dieu se révèle, quand tu commences à avoir un moment de prière, et que tu commences à chercher la face de Dieu, et qu'à un moment donné, souvent nous on parle, on laisse pas Dieu nous répondre. Quand vous avez un moment de prière, vous attendez des confirmations de la part de Dieu, vous attendez que Dieu vous parle, prenez un temps de silence une fois que vous avez prié. Prenez un temps, vous êtes là, vous oubliez tous vos soucis, vos tracas, vous fermez vos yeux, vous videz vos têtes de toutes les pensées qu'il peut y avoir, et vous orientez simplement vos pensées vers Jésus-Christ. Vous pensez uniquement à votre Seigneur. Vous lui apportez ce qu'il y a dans votre cœur. Et une fois que vous avez apporté ce qu'il y a dans votre cœur, vous prenez un temps de silence. Quelques secondes, quelques instants, vous attendez. Et puis vous ressentez ce qui va se passer dans votre cœur. Et là, Dieu va vous parler. Il va vous dire oui, non. Il va vous donner des phrases, des mots. Il va s'adresser directement à vous. Vous sentirez pleinement la présence de Dieu. Ça, c'est pas du mysticisme. C'est pas de l'hérésie, c'est une vie véritable avec le Seigneur. Parce qu'il s'adresse à nous, parce qu'il nous parle. Et ce sont des instants vraiment merveilleux. C'est dans cette intimité que nous pouvons progresser avec le Seigneur véritablement. C'est lorsque nous sommes dans un contact comme cela avec lui, que nous grandissons, que nous prenons cette maturité spirituelle. Les prédications, tous les sermons, les grands discours, bien sûr que cela nous enseigne. Cela nous permet de comprendre certaines choses à travers la parole de Dieu, mais il n'y a rien de mieux que la chambre haute. Il n'y a rien de mieux lorsque c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui t'enseigne, qui vient et qui t'apprend, qui vient et qui te redresse, qui vient et qui te remet sur la voie, qui te parle. Il n'y a rien de mieux que cela. Pour les apôtres, la Bible dit que la chambre haute, eh bien, c'était un lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Et j'aime cette expression. Ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire que ce n'était pas de temps en temps, ce n'était pas uniquement quand ils le voulaient, ce n'était pas une occasion pour une occasion spéciale, ce n'était pas uniquement parce qu'ils en avaient envie, mais c'était d'ordinaire. régulièrement. On pourrait se poser la question de savoir si d'ordinaire nous passons dans notre chambre haute, si c'est une bonne habitude que nous avons de passer dans cette chambre merveilleuse où il y a la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans cette chambre? On va essayer de voir un petit peu. Au verset 14, il nous est dit ceci: tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Alors ça, c'est intéressant de voir ce qu'il faisait ici. D'abord, il est dit tous. Ça veut dire que quelque part, il n'en manquait pas un. Tous étaient là à la réunion de prière. Tous étaient là à la réunion d'intercession, du combat spirituel. Tous. Il y avait quelque chose qui faisait bloc. Deuxièmement, il est dit d'un commun accord. Littéralement, ça veut dire avec une même disposition de cœur. Avec une même pensée, avec une même volonté, avec une même unité. D'un commun accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans une unité spirituelle. Avec la même vision de l'œuvre de Dieu. La même vision du développement. La même vision de la croissance. La même vision de la direction que Dieu veut nous donner. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas certaines directions de la part de Dieu? Pourquoi on n'avait pas certains exaucements? Que se passe-t-il lorsque, sur le plan spirituel, nous sommes en désaccord? Quand il est dit qu'ils étaient tous d'un commun accord, ce n'était pas simplement sur le sujet de prière ou les sujets de prière, d'une manière intellectuelle, ils étaient d'accord. Mais il y avait une même communication d'esprit, de cœur et d'âme. C'est pour ça qu'il a fallu 10 jours pour que le Saint-Esprit vienne. Vous pensez que Dieu s'est amusé à les faire attendre 10 jours? Vous saviez qu'ils ont attendu 10 jours? Parce que nous, quand on lit le verset, ça va vite. On lit ça, et puis tout de suite, on passe à la suite. Et puis, on arrive au chapitre 2, où la Pentecôte descend, où le baptême du Saint-Esprit est là, et que des langues semblables à des langues de feu, là, est en train de visiter ces hommes et ces femmes. Et pour nous, c'est très rapide. En quelques minutes, on a lu le passage, et c'est réglé. Seulement, la Bible nous dit que 10 jours, ils ont passé dans l'intercession, la prière, dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur. Pourquoi, à votre avis? La Bible ne le dit pas. Mais est-ce que vous pensez que dès le départ, ils ont pu être d'un commun accord avec ce qu'ils venaient de vivre? Vous avez réfléchi à ça? Vous n'avez pas réfléchi à ça? Je vais vous faire réfléchir un peu à ça. Vous réfléchissez pas beaucoup, je trouve, des fois, là. Il faut réfléchir un petit peu à savoir pourquoi ça a mis 10 jours. C'est pas parce que ça a mis 10 jours que ça a mis 10 jours, que c'était comme ça, que c'était la volonté de Dieu. Il ne s'est plus à les faire attendre. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils viennent de vivre? Jésus-Christ vient de mourir. Il vient de ressusciter. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Judas vient de les trahir. Alors qu'ils étaient un groupe de 12, ils étaient là, unis, ils avançaient dans la même direction. Mais finalement, il y a cette déception, il y a Judas. Il y a cette grande déception. Le maître vient de mourir. Jésus vient d'être crucifié. Il est mort. C'est vrai. Il est ressuscité. Donc, il commence à réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre l'a renié. Tous les disciples dans le jardin de Gethsémané sont partis. Ils l'ont tous abandonné. Ne pensez-vous pas que dans leur cœur, il pourrait y avoir des remords? À votre avis? Ils sont arrivés à la Pentecôte comme ça? Comme des joyeux lurons en disant, c'est formidable, allez maintenant, va prier le Seigneur, il nous a dit qu'il allait revenir. Je pense que ça n'a pas forcément dû se passer aussi facilement que cela. Peut-être que Pierre s'est repenti. C'est vrai, la Bible ne le dit pas. Mais si ça a mis 10 jours, c'est bien pour une raison. Et certainement qu'il a confessé ses péchés, il a demandé pardon d'avoir peut-être renié le maître pendant 3 fois. Peut-être que les autres disciples se sont demandé pardon mutuellement parce que finalement, entre eux, ils marchaient en disant, c'est qui le plus grand entre nous? Tu sais un peu qui c'est le plus grand? Qui est-ce qui va arriver à la droite de Dieu et à la gauche de Dieu? Ça, c'est ce qu'ils discutaient quand Jésus était encore là. Et là, ils se retrouvent dans cette situation maintenant. Peut-être que quelque chose s'est passé dans leur cœur et qu'ils ont commencé à se confesser les péchés les uns les autres. À se demander pardon mutuellement. Parce que justement, quand ce moment de prière a commencé, ils étaient tous là, c'est vrai. Mais il fallait qu'ils deviennent d'un commun accord. L'Église devient puissante quand elle devient toute réunie et qu'elle est spirituellement d'un commun accord. Et là, il y a une force spirituelle qui se dégage et que le diable ne peut plus retenir. Parce que justement, il y a cette unité. Quand dans l'Église, il y a la division, ne serait-ce que dans nos pensées, dans nos manières de voir, nous n'avons pas la même vision, la même direction, le diable rigole. Et il dit, ils peuvent toujours continuer à prier, les choses ne se mettront pas en place. Et ce sera uniquement à coup d'efforts humains que certaines choses se feront, mais pas divins. Et c'est pour ça que pour moi il est important que la vision que Dieu nous donne concernant l'Église, je ne sois pas seul à la recevoir, et heureusement c'est ce qui se passe, mais que d'autres, plusieurs, et que Dieu le veut que ce soit tous, vous puissiez tous recevoir cette direction, cette vision, cette manière dont Dieu veut nous conduire et là où il veut nous amener, afin que nous soyons tous d'un commun accord. Et quand on a commencé à se mettre à prier, on a déjà commencé à cela. Eh bien, il y a une énergie spirituelle, il y a une force spirituelle que toutes les ténèbres réunies ne pourront pas s'opposer. Parce que nous serons unis en Christ. Et tous les démons devant nous, avec Satan en tête, ne pourra pas nous résister. Pourquoi ? Parce qu'on sera tous derrière Jésus-Christ. Et c'est lui qui marchera devant. Alors peut-être il faut du temps. À eux, il aura 6 jours. Peut-être qu'à nous, il nous en faut 100. Je ne sais pas. Il nous en faut quelques-uns. Et peut-être que c'est bon de pouvoir réfléchir à ça. Pourquoi t'as mis 10 jours, Seigneur, pour intervenir ? Peut-être parce que justement, ils n'étaient pas tous d'un commun accord. Et ils avaient besoin de devenir tous d'un commun accord. Dans une même pensée, d'un même cœur, d'une même volonté, d'une même disposition, dans une même vision, dans une même direction, dans une même unité spirituelle. Tous, nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu. Tous, nous avons besoin que Dieu mette dans notre cœur sa pensée, sa direction. Et je sais que c'est ce qu'il commence déjà à faire. Il l'a déjà fait et il continue encore à le faire. Et c'est là où nous serons victorieux. Alléluia. Quand en tant que croyants, chrétiens de l'Église, nous comprenons cela, alors nous allons chercher la direction de Dieu. Peut-être nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses. C'est normal et on a le droit de ne pas être d'accord. Ce serait trop facile et trop simple et très ennuyeux si tout le monde était d'accord et marchait toujours comme des moutons de Panurge. Là au moins ça donne un peu de vie, un peu de vigueur. Et on a la possibilité de confronter nos idées, de discuter. Mais il y a l'axe principal que Dieu nous donne. Il y a la direction principale que Dieu nous montre, qu'il nous a déjà montré. Et qu'il, sur laquelle il nous conduit jour après jour. Et sur celle-ci, nous avons besoin d'être unis, avoir une même pensée, une même volonté, une même direction, un même cœur et une même âme. Alléluia. Et puis ce qui me plaît ici, c'est que c'est avec les femmes. Ben oui, ça me plaît parce que la société, les religions, l'Église même, a écrasé, voire même négligé, la condition de la femme pendant des années, des années et des années. Bon, c'est vrai qu'en France, depuis 1968, ça a changé un peu. C'est pas parce que je suis né, hein. Mais au mois de mai, il paraît qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai qu'en France, la situation a changé un petit peu, mais nous sommes malheureusement partis, je crois, comme toujours, dans un autre déséquilibre. On est parti encore dans un extrême, et finalement, eh bien, c'est dommage de ne pas s'en arrêter à l'équilibre de la parole de Dieu. Je crois entièrement que la femme a pleinement sa place, non simplement dans la société, mais également pleinement dans la vie spirituelle. Et la femme a sa place, mais il faut que la femme, comme l'homme, garde un équilibre. L'équilibre dont la Bible nous enseigne. L'homme n'a pas à tuer ou à négliger la femme. Mais elle n'a pas non plus à prendre la place de l'homme. Comprenez ce que je dis. Maintenant, il est vrai que si l'homme avait, dans le domaine spirituel, gardé la sienne, eh bien, peut-être qu'il n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est bien souvent parce que l'homme a fléchi que finalement, la femme l'a remplacé. J'ai souvent été très étonné dans différentes églises dans lesquelles je suis passé, de voir que par exemple dans les réunions de prière, eh bien il y avait souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et que dans la plupart des pays où le réveil a éclaté, eh bien étaient en prière souvent plus de femmes que d'hommes. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Moi je trouve pas que ça soit normal. Non pas que je veuille mettre la femme de côté, pas du tout. Et elle a raison de prendre cette place spirituelle. Mais ce que je trouve anormal, c'est que l'homme ait démissionné. Que l'homme ne prenne plus ses responsabilités. Et ne garde pas et ne tienne pas son engagement devant Dieu. Si l'homme n'avait pas démissionné de ses responsabilités familiales, il n'en serait pas là aujourd'hui. Si l'homme n'avait pas démissionné de ses prérogatives au niveau de l'Église, il n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Si l'homme était véritablement un homme, eh bien la femme n'aurait pas eu besoin de pallier à ses manquements pour que l'Église de Jésus-Christ soit saine, pour qu'elle ait bonne santé, pour qu'elle prospère. Nous avons besoin aujourd'hui de retrouver un équilibre. Et nous avons besoin de retrouver l'équilibre divin, celui que la Bible nous enseigne, nous parle. Et quand on regarde finalement bibliquement, eh bien on se rend compte que la femme a beaucoup de place, plus même de place que ce qu'elle n'a aujourd'hui dans l'Église. Ça vous étonne ça, hein? Eh oui, plus que ce qu'elle n'en fait aujourd'hui. Et c'est dommage qu'elle n'aille pas aussi loin, mais je crois que des ouvertures, des choses sont en train de se mettre en place. Mais nous avons besoin de trouver cet équilibre. Et je pense qu'il est important. Et puis, il est dit quatrièmement, il persévérait dans la prière. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. C'est le combat spirituel. J'aimerais rajouter que si il passait autant de temps dans la prière, c'est que certainement, il savait prier. Vous allez dire, mais nous aussi, on sait prier parce que... Ouais, mais ils ont passé quand même 10 jours ensemble, sans sortir, dans le combat spirituel, dans la prière, dans l'intercession. A priori, ils ne trouvaient pas cela rabat-joie, ils ne trouvaient pas cela ennuyeux ou inutile, mais pour qu'ils restent 10 jours dans cette situation, c'est que certainement, ils y trouvaient un grand intérêt. Ils doivent prier. Et là, il y a une différence. De dire aux chrétiens qu'ils savent prier, ils le savent qu'ils doivent le faire. Et certains le font depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Peut-être qu'il nous faudrait comprendre comment nous devons prier. Et je bénis Dieu pour la progression de l'Église ici à Andrézieux dans ce domaine. Parce que depuis que nous avons engagé ces réunions de prière le jeudi soir pendant des fois 2 heures, eh bien je trouve qu'il y a vraiment eu une progression. Petit à petit, plusieurs découvrent la véritable prière d'intercession. Petit à petit, plusieurs découvrent le combat véritable, spirituel. C'est vrai qu'au début, certains avaient du mal à comprendre pourquoi ils devaient changer leur manière de s'adresser à Dieu. Pourquoi ils devaient prier de telle ou de telle manière. Et c'est vrai qu'on a toujours du mal à sortir de nos habitudes, de notre manière de faire, de notre tradition. Mais je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui a commencé à travailler dans les cœurs et qui a commencé à parler. Et qui a commencé à nous enseigner par diverses expériences. Et aujourd'hui, je le célèbre de tout mon cœur et je lui rends grâce parce que plusieurs sont sortis des vaines lamentations de Jérémie pour enfin entrer dans le véritable combat spirituel. Et ça, c'est indispensable. On a besoin de comprendre non simplement qu'il faut prier, mais comment nous devons prier, comment nous pouvons nous tenir devant Dieu, avec quelle autorité nous avons. Et ça s'apprend. Ça s'enseigne. Trop souvent, nous n'avons pas l'exaucement de notre prière. Pourquoi? Oh, il n'y a pas de formule magique. D'une certaine manière, nous ne l'avons peut-être pas formulée non plus de la façon dont il fallait le faire. Nous n'avons pas pris l'autorité, la position telle que Dieu nous demandait de le faire. Parce que Jésus nous a donné autorité. Et nous, trop souvent, nous rigolons avec ces choses-là. Parce que nous ne les comprenons pas. Et très souvent, nous passons à côté. Finet un jour donnait ce témoignage. Vous connaissez Finet, ce grand pasteur, cet homme de Dieu qui a fait des choses vraiment extraordinaires. Et un jour, il a rencontré un autre homme de Dieu qui priait et qui avait vraiment une vie de prière puissante, une vie de prière dans une relation avec Dieu vraiment particulière, intime. Et d'ailleurs, à chaque fois que Finet partait en mission, faire des réunions ici ou là, il demandait toujours à cet homme de prier pour lui. Il lui donnait ses dates d'intervention, de réunion, etc. Parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui se tenait véritablement dans la prière et dans l'intercession. Et Finet va dire, à un moment de son nez, il va dire, au moment de sa vie, il va dire, avant de rencontrer cet homme, je croyais prier. Et il va dire, maintenant je sais que je ne savais pas ce que c'était que de prier. Tout simplement parce qu'un jour il a été au contact d'un homme qui avait cette force spirituelle et qui lui a montré de quelle manière on pouvait se tenir devant Dieu. Et ça a changé sa vie. Quand on a reçu dans certaines églises ce groupe de prières qui venait du Rwanda après le réveil spirituel qu'ils ont eu là-bas, plusieurs ont été marqués. Oh, certains ont même été choqués de la manière dont ces hommes et ces femmes se tenaient dans la prière. Un groupe, il y a quelque temps, ont été invités dans une autre église de la France et eux, ils venaient de Chine. Et il a simplement dit, ces gens ont simplement dit, ils les ont invités à prier pour des sujets particuliers. Ils les ont fait venir. Ils les ont amenés et ils leur ont dit, voilà, on va prier pour telle et telle chose. C'est vrai que nous, on pourrait dire, on peut prier pour cela, on peut prier pour... Mais quand ils ont, ces hommes-là, ces femmes-là, commencé à prier, il y a une onction qui a commencé à descendre, une présence de Dieu. Et on remarquait une chose, c'est que ces gens-là ne priaient pas simplement avec leur intelligence, mais ils priaient avec tout leur être. Toute leur force était réunie dans l'intercession et dans la prière. Ils priaient, excusez-moi l'expression, avec leurs tripes, avec ce qu'il y avait intérieurement. Ils mettaient toute leur compassion, ils mettaient tout leur amour, ils mettaient cette miséricorde qu'ils avaient intérieurement. Et cette compassion qu'ils avaient intérieurement produisait du fruit. Et les larmes venaient. J'ai été étonné de voir qu'au Brésil, par exemple, dès qu'on commençait à prier avec des chrétiens ici ou là, que ce soit des pasteurs ou des frères ou des sœurs, presque systématiquement les uns et les autres commençaient à pleurer. Pourtant, les sujets pour lesquels on leur demandait n'étaient pas si dramatiques que ça. Chaque fois que je leur ai demandé de prier pour la France et qu'on a commencé à faire des prières, des réunions de prières ensemble pour la France pendant les 15 jours où j'étais là-bas, systématiquement, pratiquement, ils se mettaient à pleurer. Et au début, j'ai cru que c'était une manière, une habitude de faire, et comme une coutume, et que c'est comme ça. Et après j'ai compris, parce que j'ai vu, c'était pas une manière, c'était pas une habitude. Il y avait quelque chose qui les saisissait à l'intérieur. Ils étaient saisis dans leur cœur. Ils étaient pris au plus profond d'eux-mêmes. Et quand ils commençaient à prier pour les sujets que je leur demandais, et en particulier donc la France, il y avait comme un fardeau qui commençait à les oppresser, à les écraser. Et ils sentaient un poids lourd sur leurs épaules et sur leur cœur. Et à ce moment-là, ils étaient en train de prendre conscience que ce n'était pas de la rigolade, ce n'était pas un petit sujet comme cela, mais c'était vraiment quelque chose de lourd, de pesant. Il y avait une oppression spirituelle. Et ils étaient tenus et enracinés par cela. C'était impressionnant de les voir. D'y mettre tout leur cœur et toute leur compassion. Ça m'a fait penser à Jésus. Lorsqu'il s'est trouvé devant ce tombeau où Lazare était là, mort. Et la Bible nous dit que Jésus pleura. Il était ému de compassion. Ce que j'ai remarqué, c'est la compassion dont il était ému et ce qui a touché son cœur, ça a produit quelque chose. Ça a produit une action. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec les gens qui font la relation d'aide, la formation le jeudi soir. On a parlé de la compassion. Regardez ce qui se passe quand les gens sont remplis de compassion dans le Nouveau Testament. Quand tu es rempli de compassion, la compassion produit systématiquement dans ton cœur une action. Une action que Dieu va bénir. Systématiquement. Que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine spirituel. Systématiquement, quand la compassion est à l'œuvre, alors tu as une action et un fruit qui va en ressortir. Et la bénédiction de Dieu ressurgit. Tous les gens qui ont été remplis de compassion, Dieu a béni. Prenez tous les exemples de l'Ancien Testament, c'est extraordinaire de voir cela. Il y a un dénominateur commun à chaque fois. Dieu bénit régulièrement, systématiquement, cette attitude
de cœur. Je crois alors que nous avons besoin d'apprendre à prier. Et nous avons besoin de nous laisser saisir par le Saint-Esprit. Nous avons besoin dans notre prière, dans notre vie personnelle, dans notre relation avec Dieu, d'aller au-delà de notre intellect. Je vous ai parlé il y a quelque temps de l'adoration. Je vous avais parlé, quand on parle de l'adoration, qu'il est nécessaire que si on reste uniquement intellectuel et que ça ne descend pas dans le cœur, alors on est figé, on est bloqué et on ne peut pas louer et adorer Dieu comme il pourrait se réjouir de nous voir. Je ne dis pas non plus qu'il faut gesticuler dans tous les sens, mais quelque part, si nous sommes touchés intérieurement, enfin vous êtes des hommes et des femmes, donc quand vous en recevez une mauvaise nouvelle, vous êtes triste généralement. Et ça peut se voir sur votre visage. Mais si vous recevez une bonne nouvelle, vous êtes rayonnant de joie. Et là aussi, ça se lit sur votre visage. Un jour, quand on a fait venir un pasteur, on le faisait venir pour la première fois en France, alors on lui a donné un certain nombre de conseils. Et on l'a dit surtout, alors tu bouges pas trop sur l'estrade parce que ça c'est mal vu. Tu parles pas de telle et telle chose parce que ça on n'aime pas bien. Tu interpelles pas trop les pasteurs non plus, parce que ça, ils aiment pas. Tu parles lentement, pas trop vite, sans crier dans ton micro. Tu dis les choses calmement. Bref, on lui a donné un certain nombre de conseils pour lui expliquer comment il devait faire. Est-ce que tu pourrais faire un peu moins de bruit avec tes jetons, s'il te plaît? Merci. Et puis, un ou deux soirs plus tard, il se retrouve dans une autre salle, et puis c'était la finale de la Coupe du Monde de football. Et il y avait des pasteurs qui regardaient. Et là, c'est lui qui a été choqué. Parce que ceux envers qui il fallait être politiquement correct, parce qu'on leur parlait des choses de Dieu, et puis c'était leur culture de ne pas exploser de joie, c'était leur coutume de ne pas applaudir, c'était leur tradition de ne pas forcément réagir et de dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu et tout ça. Là, il les voit devant le match de foot, et quand le premier but a été marqué, ils se sont levés et ils ont commencé à crier « Ouais, c'est super, ouais !» Et puis ils commençaient à discuter ceci et cela, bref. Et là, lui, il les a regardés, et là, il comprenait plus. Il comprenait plus parce que, il dit, pour un ballon rond, alors on est capable de bondir, de crier, de chanter, de faire la hola, tout simplement pour 22 bonhommes sur un terrain et un ballon sur lequel ils courent, après lequel ils courent tous. Et pour celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui ressuscite les morts, qui donne la vie, celui qui guérit les malades, celui qui transforme les vies. Alors devant lui, il ne faut pas bouger, il ne faut pas exalter de joie, il ne faut pas proclamer ses louanges, il faut être politiquement correct. Quelle honte, quelle honte. Et je crois que nous devrions réfléchir un petit peu à cela. Je crois que Dieu se réjouit de nous voir dans la joie. J'en suis convaincu. Dieu a de la joie que de nous voir heureux à le louer et le célébrer. Dieu a un cœur réjoui quand il voit ses enfants dans la liberté, en train de glorifier son nom et de ne pas être frustré par toutes sortes de règles stupides et d'attitudes qui n'ont rien de correct finalement, puisque c'est souvent une attitude d'hypocrisie. Parce que lorsque nous sommes dehors, alors là, nous nous permettons de faire tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est dommage. Dieu est un être à honorer et à glorifier. Et alors dans la prière, et je termine avec ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Si dans l'adoration, nous avons besoin de nous exprimer, et même peut-être parfois corporellement, dans la prière, nous avons besoin aussi d'y mettre toute notre énergie, tout ce qu'il y a dans notre cœur, toute notre connaissance spirituelle, mais en même temps tout notre amour, toute notre compassion. Et vous verrez que si vous commencez à prier de cette manière-là, eh bien, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que maintenant. Et Dieu va agir d'une manière différente. quand vous commencez à y mettre tout votre cœur et pas qu'un petit bout. Mais quand l'intégralité de votre cœur est dans la prière, eh bien vous allez voir de quelle manière Dieu y répond, de quelle façon il va se manifester, de quelle façon sa puissance va se glorifier. Alors avez-vous cette chambre haute? Avez-vous cette chambre haute et est-ce que vous y allez régulièrement? Si vous ne l'avez pas encore, prenez le temps de la fabriquer. Prenez un moment, le matin, le soir ou dans la journée, peu importe. Persévérez dans la prière. Demandez au Seigneur de vous amener plus loin, de vous instruire et recevez de sa part sa direction, sa vision pour votre vie personnelle, pour votre vie familiale, pour votre service dans l'Église, pour l'Église elle-même également. Demandez-lui de recevoir. Demandez-lui de recevoir. Demandez-lui d'avoir dans votre cœur exactement la direction de l'Église, la pensée de l'Église, là où il veut l'amener. Moi, j'ai confiance en lui parce que il dit pas à l'un fais ceci et à l'autre fais cela. Je sais que si tous nous cherchons véritablement, il nous dit la même chose. Il nous amène dans la même direction et il nous fait voir sa même gloire. Alléluia. Tout cela afin d'être d'un commun accord avec nos frères et nos sœurs, afin de persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ces moments, ces instants. Nous sommes heureux de te connaître, de marcher avec toi. Et nous sommes heureux de savoir que tu es ce Dieu vivant et vrai. Ce Dieu qui agit encore aujourd'hui avec puissance, avec efficacité. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, ce soir. Nous voulons là commencer, continuer à prier, à intercéder et dire, Seigneur, oui, nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous instruises. Nous voulons, Seigneur, que tu mettes pleinement dans notre cœur ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, là où tu veux aller. Seigneur, merci, parce que tu appelles les uns, les autres, les frères, les sœurs, les plus petits comme les plus grands. Tu nous appelles chacun à te suivre, à marcher dans tes voies. Et je te bénis, Seigneur, pour cela, parce que ta parole est unique, ta parole est identique pour chacun d'entre nous. Et lorsque tu nous parles à chacun, que tu mets ta pensée dans notre cœur, alors nous devenons unis ensemble, d'un même cœur, dans une même unité, avec une même pensée, une même vision, une même direction. Et là, Seigneur, ta gloire éclate au milieu de nous, parce que tout notre cœur, tout notre être entier est dans ta direction et dans ta vision, te plaît, Seigneur, et nous sommes ensemble unis pour marcher avec toi. Seigneur, merci, parce que c'est ce que nous réclamons, cette unité vraiment forte. Nous l'avons entendu, l'ennemi cherchera à nous détruire, il cherche à casser cette unité, mais Seigneur, nous sommes à tes pieds et nous crions à toi, nous te faisons confiance et nous te disons, Seigneur, maintiens l'unité parce que c'est ton église. Alors maintiens l'unité de ton église, c'est toi le chef de cette église, alors maintiens-la, Seigneur, et continue ta croissance, continue de nous faire grandir et continue de nous montrer ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah.